C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de clivage, de baston, avec une question en ligne de fond, une question quasi philosophique. Le conflit est-il la seule source de conversationnel efficace sur les réseaux? Pour en échanger avec moi, je suis avec le professeur Poignant ce matin.
Salut Thibaut, salut tout le monde. Écoute, on peut attaquer avec deux questions. Hein. Est-ce que tu es d'accord avec moi que vraiment il suffit de traverser la rue pour trouver du travail? Est-ce que toi aussi tu penses que c'est une aberration que Vera de Scooby-Doo soit homosexuelle, hein, parce que c'est quand même un film pour les enfants? Voilà, moi je trouve que sur les réseaux sociaux, on trouve de tout, mais on dit pas assez ce qu'on pense.
C'est bien dit, hein. Vegan versus viandard, serpentard ou Gryffondor, retraite à 64 ans, pour ou contre, pour certains, il ne fait pas de doute que depuis plusieurs années, la qualité de nos échanges, elle s'est dégradée, ou du moins radicalisé, si je puis dire, hein. Fini le débat construit et argumenté, si jamais un jour ça a eu lieu entre êtres humains vivant sur cette planète. Aujourd'hui, chacun semble camper sur ses positions et les réseaux sociaux, eh bien, s'en délectent. Et si le conflit est-ce que le conflit est source de conversationnel efficace sur les réseaux sociaux? Sans doute, on va le voir, c'est une évidence. Et on va se poser ce matin beaucoup de questions ensemble, hein, et des questions aussi philosophiques, savoir s'il y a une autre manière de faire. Puis comprendre aussi pourquoi aujourd'hui cette tactique autour du clivage, du conflit est la tactique qui est prédominante et fonctionne.
Bah ça c'est très intéressant, cette dernière question que tu viens de poser. J'ai vu une citation de Scott McNeely, qui est cofondateur de Sun Microsystems. Totalement universel. Il dit: vous êtes en bien meilleure position lorsqu'une moitié du marché vous adore et l'autre vous déteste. Et c'est bien mieux que quand personne ne vous prête attention. Donc finalement, il y a quand même une logique, hein, même dans le business de l'électronique, qui est de se dire, bah, s'il y a déjà 50% qui est d'accord avec moi, c'est pas mal. Et si l'autre me déteste, ça me justifie encore plus auprès de ceux qui m'aiment bien.
Oui, et puis ramener évidemment aux réseaux sociaux, la discussion, elle est philosophique, mais elle est aussi et surtout algorithmique. Parce que c'est vrai, le clivage crée de l'engagement. Le conflit, ça crée de la conversation. Hein. Et aujourd'hui, pour une simple bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, les algorithmes ne tiennent pas compte de la teneur des interactions.
Aujourd'hui et depuis longtemps, hein, d'ailleurs. Ils tiennent pas compte de la teneur, donc par exemple, entre une réaction positive ou une réaction négative, des mots-clés très péjoratifs à l'intérieur de ton discours. Si je synthétise...
Tout ça, ça reste pour un algorithme, tout ça c'est de l'engagement.
Ouais, tout ça c'est de l'engagement, donc c'est bien.
Et donc c'est bien, donc c'est de la portée additionnelle. Ah bah ça intéresse les gens. Les gens discutent dessus, oh bah je vais le montrer à plus de gens.
Si je synthétise cette logique de clivage, hein, parce que justement tu pourrais te dire, mais non, c'est chiant, il y a 50% des gens qui aiment pas ce que je publie, comment ça se fait que ça marche? Donc t'as ces titres très accrocheurs, hein. En France, la parité homme-femme n'est pas respectée dans le domaine du travail. Est-ce que c'est vraiment grave? T'arrives avec un truc quand même
ça, bien
vénère. Hein.
Ça c'est bien anglais, forcément ça va faire discuter.
Donc d'un côté, on peut imaginer que t'as 50% des masses, hein, qui adhèrent fortement à mon discours, qui seront très enclines à partager, relayer, commenter mon contenu. Donc là, bah, engagement maximal. De l'autre côté, tu peux imaginer que 50% est contre cet avis, contre ma position. Mais le sujet sera tellement sensible, tellement bien amené, qu'ils pourront pas s'empêcher de commenter et de s'indigner. Et du coup, encore plus d'interactions.
Bien sûr. Et en fait, si on regarde bien les choses, il y a deux forces qui s'opposent. Alors là, je vais lâcher des gros mots que vous avez déjà entendus, mais on va parler de majorité silencieuse et de minorité bruyante. Je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Hein. On entend toujours plus ceux qui crient. Ça, c'est normal. Bah oui, bah, dans la vraie vie, c'est pareil. Sur les réseaux sociaux, encore plus. Plus globalement, sur les plateformes sociales, la majorité silencieuse, elle représente une part massive des audiences. Les gens qui ne s'expriment pas, c'est-à-dire qui lisent, qui regardent, qui se renseignent, mais qui ne s'expriment pas. Et si on veut mesurer cette majorité silencieuse, eh ben, c'est relativement simple à faire, finalement. Il faut faire un peu de maths. Je vais vous proposer ce matin qu'on le fasse. En fait, cette majorité silencieuse, c'est l'inverse de mon taux d'engagement.
Ok.
Bah oui, aussi simple que ça, bien sûr. Alors, ah oui, par exemple, bah oui, par exemple, si le taux d'engagement d'Elon Musk, bah, je ne suis pas Elon Musk par hasard, si le taux d'Elon Musk sur son compte Twitter, il est de 1%, par exemple,
ouais.
Eh bien, 99% de ses 130 millions d'abonnés constituent une majorité silencieuse. Donc, c'est massif. Mais ce qui est de paradoxal, c'est que ce sont les 1% qui vont avoir un impact sur la performance des posts d'Elon Musk. C'est eux qui lisent, c'est eux qui commentent, c'est eux qui partagent. Et du coup, ils donnent une résonance. Et alors, plus que donner une résonance, eh bien surtout, forcément, ils vont influer la ligne éditoriale de notre cher Elon. Parce que, bien sûr, comme tout le monde, comme tous les créateurs de contenu, comme toutes les marques, comme tous les annonceurs, ils cherchent à toucher le plus de monde, à augmenter sa portée. Donc, il va prendre en compte les résultats nés de la minorité bruyante et pas de la majorité silencieuse.
Ouais, voilà. Et tu parlais de majorité silencieuse. Là, il y a un terme qui existe pour ça. Alors, c'est un peu de la geekerie, mais c'est le fameux lurker de l'anglais se cacher, lurk. Et il y a une, pour étayer tes chiffres, il y a une thèse qui est sortie de Robert Blair Nonek. Lui, il estime que cette population des lurkers, donc cette minorité majorité silencieuse, représente entre 50 et 90% de la totalité des membres d'un réseau. Et sur Facebook, selon lui, on aurait un lurker sur 5, donc 20% des gens qui seraient une majorité silencieuse. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui discuteraient. Voilà. C'est ouais. un autre chiffre.
Et toucher la minorité bruyante, hein, donc ouais. justement ceux qui commentent, etc., bah forcément, c'est un moyen efficace de viraliser, de faire du reach, de la portée organiquement. Hein. On est dans une guerre à l'attention, on vous redonne le contexte, vous le connaissez ce contexte. Hein. Et on le sait, toucher ces minorités qui parlent beaucoup, eh bien, c'est une tactique qui est très bien rodée pour émerger en ligne. Hein. Tout est question d'angle, tu l'as très bien dit tout à l'heure, ou peut-être de capacité aussi à jouer les oppositions un peu extrêmes, le fameux clivage, haine. Le défi pro-Apple versus anti-Apple, Xbox versus PlayStation, gauche versus droite en matière de politique, tout ça, c'est des tactiques qui sont quasiment vieilles comme le monde et ramenées aux réseaux sociaux qui sont un petit peu automatisées aujourd'hui. Et puis, tiens, je peux pas m'empêcher ce matin, puisqu'on parle de conflit, de clivage, de parler d'Oussama Hamar. J'ai envie de parler du buzz du moment sur TikTok. C'est le Oussama Hamar, tu vois qui c'est cet entrepreneur hein, qui était à la tête de The Family, qui a accompagné de nombreux start-upers et qui est aujourd'hui une personnalité extrêmement clivante du panorama digital francophone, on va dire, et qui est, qu'on considère aujourd'hui comme le roi des mythos, hein, parce que voilà, il a plein de vidéos où il raconte des, objectivement, des bobards. Hein. Il aurait par exemple loué le Taj Mahal pour passer ses vacances d'été, etc., etc.
Et il y a pas mal de, il y a autant de contenu anti-lui ou en tout cas qui décrédibilise ce qu'il dit. Quoi.
Et évidemment, ramener ça à Oussama Hamar, hein, qui est, quoi qu'on en dise, une personnalité brillante, et bien tout ça, c'est de la tactique. Là aussi, c'est une tactique de conflit, de recherche, de clivage. Il souhaite exactement ce qui est en train de se produire, c'est que la minorité bruyante s'exprime sur là où il prend la parole. Donc il n'hésite pas là-dessus à balancer du bobard, à utiliser des énormes raccourcis, à dire des trucs
des généralités
clivantes pour derrière avoir des réactions, une belle stratégie de clivage très bien bossée.
Ouais, je suis tombé l'autre jour sur un truc totalement à côté, mais historique. Et pareil, il y a des fans d'histoire qui reprennent des vidéos de grandes personnes qui font des TEDx, des choses comme ça, qui disent non, en fait, c'est faux. Et du coup, rien que sur la base de ça, tu crées non pas un partage ou un commentaire, mais tu recrées une vidéo, recrées du contenu autour de ça, la viralité.
Bien sûr. Et alors, ce qui est flagrant, c'est que la bascule des algorithmes vers les centres d'intérêt communautaire, eh bien, renforce encore davantage les phénomènes de conflit, de clivage et aussi d'entre-soi. Alors, j'ai lu quelques extraits d'un bouquin qui s'appelle Homo Numericus.
Okay.
Voilà. Ça a été écrit par Daniel Cohen, qui avait écrit un précédent bouquin qui s'appelait Homo Economicus, qui était un peu plus connu. Objectivement, j'ai pas tout lu, j'ai lu juste des extraits parce que je trouvais l'angle un peu pessimiste sur la vision du digital, des réseaux sociaux, un peu trop pessimiste à mon goût, en tout cas. Ceci étant, j'y ai trouvé un point de vue intéressant. Selon lui, les réseaux sociaux cultivent un entre-soi qui est très propice au clivage. Et moi, je suis d'accord avec ça. C'est vrai. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, finalement, de plus en plus, vous ne cherchez pas des informations, mais la confirmation de ce que vous pensez déjà. En tout cas, ça, c'est un des gros travers des plateformes sociales et notamment des algorithmes. C'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation. En gros, je vais aller chercher à confirmer mon point de vue plutôt que d'avoir des idées opposées.
Ouais.
Et ce biais de confirmation, il est nettement entretenu par le phénomène de bulle algorithmique. Et TikTok, Instagram, et maintenant toutes les plateformes s'y mettent, hein, algorithme par communauté de centre d'intérêt. Donc, si je suis pro-Apple, je vais avoir que du contenu pro-Apple qui va se moquer gentiment de Samsung, de Android, etc. Et du coup, ça va entretenir ma relation de clivage.
BK, McDo, hein, entre eux. Et c'est marrant parce que là, on est rentré quasiment dans la science. Tu sais d'où vient ce terme clivage ? Il a été inventé ou employé la première fois officiellement par Freud pour désigner un phénomène qu'il a observé dans le fétichisme et les psychoses. Hein, donc on est un peu quand même dans le social media. Et ça consiste en la coexistence au sein du toi, au sein de ta psyché, de deux attitudes à l'égard de la réalité extérieure. Donc confirmer le fait que tu sais déjà et aussi te renseigner finalement.
Intéressant. Voilà. Alors forcément, dans ce contexte, hein, pour les marques, pour les annonceurs, eh bien, il est urgent de savoir marcher sur des œufs, si je puis dire.
Ouais, sans les casser.
Exactement. Et je suis retombé sur une étude de Pinterest dont on avait parlé ici au micro du Super Daily en 2020. Je ne sais pas si tu te souviens.
J'ai relu rapidement l'épisode avant de venir.
Voilà, cette étude qui souligne l'impact des interactions sociales sur l'image de marque. Alors, étude très intéressante qui je pense, c'est toujours d'actualité, je vous la mets en note de cet épisode. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude ? Eh bien, on apprend, je résume, 6 personnes sur 10 concèdent qu'elles se rappellent mieux d'une marque qui communique positivement. Ok. Elles ont confiance dans les marques qu'elles ont rencontrées dans un contexte positif, 6 sur 10. Et puis, elles achètent plus facilement quand la marque donne une image positive. Concrètement, ce que ça veut dire, si l'environnement est pollué par la négativité, eh bien, la mémorisation de mes messages de marque, de ma marque, est moindre. Et surtout, le chemin vers l'acte d'achat se complique. Il est primordial pour les annonceurs, pour les marques, de se retrouver dans un contexte positif, favorable à l'appréhension positive des messages de marque. C'est ça que ça veut dire. Et pour les annonceurs, ça, c'est un vrai sujet. Mon message de marque, il doit être diffusé dans un environnement qu'on appelle brand safe, ce fameux brand safe dont on vous avait déjà entendu parler ici au micro du Super Daily.
Et cette étude, elle était intéressante parce qu'elle tombait juste après ou juste pendant la pandémie de Covid. Et du coup, il y avait cette insécurité, ce ressentiment par rapport aux réseaux sociaux avec tout ce qui y passait. Et il y a 60% des personnes qui disaient que toutes ces zones ou ce comportement sur Internet leur faisait peur. Et que quand des marques prenaient ce parti-là, eh ben, elles avaient vraiment peur, ces gens-là, de perdre confiance en ces marques. Donc c'est fort quand même.
Et n'en déplaise à Elon Musk, c'est sans doute l'une des raisons majeures du désamour des annonceurs pour les solutions publicitaires de Twitter. C'est avant toute chose, c'est juste que le cadre n'est pas positif.
Oui, ils ont perdu confiance.
Et donc, n'est pas forcément favorable à l'affichage de messages publicitaires. Alors, question pour ouvrir tout ça, là on a dressé un portrait un peu pessimiste de la situation, mais est-ce que l'altruisme, l'entraide, la bienveillance, le monde des bisounours sur les réseaux sociaux existe ? C'est ça la question que j'aimerais te poser. Est-ce que toi tu vois des choses quand même qui appellent une vision plus chouette, quoi.
Tu parlais de brand safe, d'environnement où ma marque est en sécurité, n'est pas exposée à toutes ces critiques et tout. Il y a évidemment les groupes privés, donc on peut parler de Facebook, on peut parler d'Instagram, on peut parler de toutes ces plateformes-là, où là, tu sélectionnes les membres, t'as un certain nombre de questions. C'est du communautaire ramené à une marque. Là, le premier exemple, ramené à une marque. Et oui, c'est sécurisé, c'est contrôlé et on évite d'aller trop loin dans ces débats-là, c'est super maîtrisé. Donc pour moi, il y a des endroits comme ça ou dans des groupes privés de marques. Après, au sein des communautés, tu peux avoir, quand les communautés sont très larges, par exemple les bricoleurs, tu peux avoir des micro-clivages sur des gens qui pensent qu'il faut pas faire comme ci, pas faire comme ça.
Mais non, faut pas mettre une molly, faut mettre une cheville comme ci, comme ça.
Et en fait, quand dans les communautés, t'as des sous-communautés très très expertes sur un sujet, là, ça peut créer de nouveau un clivage entre différentes communautés. Mais par contre, quand c'est brand safe, contrôlé par une marque, ça va très bien, il y a aucun souci. Dans les communautés, ça reste quand même bienveillant, je trouve, à l'intérieur d'une même communauté. Je sais pas ce que t'en penses.
Mais... Oui, moi, ce que je pense, c'est que il y a un vrai sujet dont les plateformes sociales commencent à prendre la mesure. On a déjà vu Meta s'exprimer là-dessus. Alors, ils sont loin d'avoir réglé le problème, voire même ils n'ont pas avancé dessus. Par contre, ils ont bien conscience que globalement, nous, utilisateurs, on commence à avoir un ras-le-bol et sans doute les jeunes générations aussi. Et du coup, on voit un certain nombre d'usages se transformer. Là, tu parlais notamment de dark social, donc en gros de messagerie, de groupes privés, etc. Donc
passer sous contrôle,
passer du one to many au one to few, les petits groupes de conversation. Ça, c'est un usage qui se généralise et, pour à mon avis, qui est aussi un usage de fuite vers les conversations clivantes. Je vois aussi autre chose, c'est la naissance de plateformes sur ces principes de bienveillance. Et j'aimerais en parler parler d'une ce matin. C'est l'application GAS, G-A-S. Vous avez sans doute entendu parler de cette application qui est sortie au mois d'août de l'année dernière aux États-Unis, qui est en train de tout casser là-bas, qui n'est pas encore disponible malheureusement ici, donc on n'a pas eu l'occasion de tester, mais qui a un franc succès, notamment sur les Gen Z. L'idée de GAS, G-A-S, elle est vraiment basée sur la bienveillance. L'idée, c'est que je réponds à des questionnaires en votant pour mes amis sur la plateforme. Les questions sont des questions vraiment bienveillantes, du style « C'est qui la plus belle personne autour de toi ?»« qui est-ce que j'admire en secret ?» etc., etc. Et les réponses, surtout, elles sont anonymes. Donc, vraiment, on est sur un principe où, dès le fondement de la plateforme, le sujet de la bienveillance, de l'entraide, de l'altruisme a été intégré. J'ai un autre exemple média qui, pour moi, a tout à fait compris et je trouve est un modèle en la matière, c'est Hugo Décrypte. Parce que ici, on n'a pas cité de médias, mais on pourrait rapidement Combini, ils ont quand même beaucoup usé du clivage précédemment. Ouais, toutes ces plateformes d'infotainment, hein, globalement, Brut, etc., etc. C'est un réflexe de base. Et je trouve que ce que fait Hugo Décrypte est justement très différent. Mmh. Il n'utilise jamais ces raccourcis ou ces tactiques de clivage pour générer de l'engagement. Allez jeter un coup d'œil, hein, c'est différents médias, sur YouTube évidemment, mais sur Instagram, sur TikTok, et vous allez voir que l'angle est très dans la neutralité aussi.
Ouais, il est très précis en fait, Hugo Décrypte. Quand tu prends un micro-sujet dans le sujet, tu peux être beaucoup plus précis, tu peux prendre le temps de bien l'expliquer, alors que la stratégie de clivage aussi, c'est de prendre un sujet très large, tel que la guerre en Ukraine, au lieu de dire telle chose dans la guerre en Ukraine, et forcément, ça va être clivant. Donc lui, il est très précis là-dessus.
Voilà, est-ce qu'on a
et bah si on a parlé la semaine dernière, tu sais, on parlait de la maternité, des safe places pour les mamans, etc., et on parlait de Peanut, ce réseau social qui est en train de se monter où les mamans à l'intérieur retrouvent des sous-groupes de communautés par problème, notamment les mamans qui ont perdu un enfant, et là pareil, ça recrée des sous-ensembles qui permettent que ça soit complètement safe et où ils peuvent échanger,
ou alors
sur
des sujets très clivants comme l'allaitement, on le sait, c'est extrêmement clivant,
et tu te retrouves dans une safe place sur un sujet clivant, donc c'est plus rassurant.
Passionnant. Bah, les amis, on aura l'occasion de continuer à discuter de tout ça avec vous au micro du Super Daily. Vous êtes les bienvenus aussi pour venir en parler avec nous et sereinement, avec bienveillance sur les plateformes sociales.
Soyez pas clivants.
@supernatif, c'est simple. Là où vous êtes, nous sommes. Et puis chaque matin, on est direct sur Twitch à 9h du mat. Et puis voilà.
Voilà, on vous embrasse. On vous dit à demain et puis passez une très bonne journée.
Merci à vous tous.
Salut
tout le monde. Ciao, bye bye.